Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 13, Pirates. La décision de Tom était prise. Son moral était très bas. On l'oubliait. Il n'avait plus d'amis. Personne ne l'aimait plus. Quand on apprendrait jusqu'où le désespoir l'avait poussé, peut-être que certains se frapperaient la poitrine. Il avait fait son possible pour rester dans la bonne voie. On ne l'avait pas laissé faire. On avait voulu se débarrasser de lui, soit. De là à le rendre responsable des conséquences que cela pouvait avoir, il n'y avait qu'un pas. Quel droit le pauvre abandonné avait-il de se plaindre? Le sort en était jeté. Il n'avait pas le choix. Il ferait sa carrière dans le crime. Tout en brodant sur ce thème, il descendait Meadow Lane. Loin, très loin, il entendit la cloche de l'école qui sonnait l'heure de la rentrée. À la pensée qu'il n'entendrait plus jamais ce son qu'il connaissait si bien, il eut le cœur gros. L'épreuve était dure, mais elle lui était imposée. Puisqu'il lui fallait affronter les périls d'une nouvelle vie, il se soumettait. Il pardonnait à ceux qui étaient cause de son malheur. Il se mit à sangloter. Sur ces entrefaites, il se trouva face à face avec son ami de toujours, son bon vieux copain, Joe Harper. Joe, lui aussi, avait l'air sombre et énigmatique. Lui aussi paraissait nourrir de mystérieux desseins. Les deux âmes en peine vibraient à l'unisson. Tom, s'essuyant les yeux avec sa manche, commença à raconter à Joe qu'il avait pris la résolution de se soustraire au mauvais traitement qu'il subissait chez lui et de s'enfuir à tout jamais dans le vaste monde. Il termina en exprimant l'espoir que Joe, lui, ne l'oublierait pas. Par une coïncidence singulière, Joe se trouvait exactement dans le même cas. Il avait précisément l'intention de faire part à Tom de la même résolution, et c'est dans ce dessein qu'il le cherchait. Joe venait d'être fouetté par sa mère pour avoir absorbé un bol de crème auquel il n'avait pas touché, dont il l'ignorait jusqu'à l'existence. C'était un prétexte. Il était clair qu'elle en avait assez de lui et qu'elle souhaitait le voir partir. Tel étant le cas, il n'avait qu'une chose à faire, c'était de s'en aller. Il lui souhaitait d'être heureuse et de ne jamais regretter d'avoir laissé partir son pauvre enfant tout seul dans un monde insensible et cruel. Tout en déambulant mélancoliquement, les deux amis se jurèrent de se soutenir, de se considérer comme des frères et de ne plus se séparer jusqu'à l'heure où la mort les délivrerait de leurs soucis. Ils se mirent à dresser des plans. Joe aurait voulu être ermite et vivre de vieilles croûtes de pain dans une caverne, jusqu'à ce qu'il meure de froid, de privation et de chagrin. Mais, après avoir pris connaissance du point de vue de Tom, il admit volontiers qu'après tout, le crime avait son bon côté et que la carrière de pirate lui souriait assez. À 5 km en aval de Saint-Pétersbourg, à un endroit où le Mississippi a près de 2 km de large, il y avait une île, longue et étroite, boisée, inhabitée, que l'on appelait l'île Jackson. Un banc de sable permettait de l'atteindre. Elle constituait donc un parfait lieu de rendez-vous pour des pirates. Elle était inhabitée, elle se situait assez loin, du côté de la rive opposée, en face d'une épaisse forêt aux abords de laquelle il n'y avait pour ainsi dire personne. Le choix de l'île Jackson ne souleva donc pas d'objection. Quant à définir ce qui devait faire l'objet de leur piraterie, ils n'y songèrent même pas. Il leur vint à l'idée que l'ami Huck serait le compagnon rêvé et ils se mirent à sa recherche. Huck ne demanda pas mieux que de se joindre à eux. Pour lui, il n'y avait pas de sous-métier. Toutes les carrières étaient bonnes. Les trois amis se séparèrent en convenant de se retrouver dans un endroit écarté, sur le bord de la rivière, à environ 3 km en amont du village, à leur heure favorite, minuit. Il y avait là un petit radeau dont on s'emparerait. Chacun devait se munir d'hameçons et de lignes, ainsi que de vivres qu'il se procurerait. Mieux valait ne pas dire comment. Ce n'est pas pour rien qu'on ait un hors-la-loi. Et avant la fin de l'après-midi, il n'avait pu s'empêcher de répandre dans le village le bruit que bientôt on verrait du nouveau. Quel nouveau ? Tous ceux à qui était révélé cet important secret avaient consigne de ne rien dire et d'attendre. Vers minuit, Tom arriva avec un jambon et diverses autres provisions. Il se posta dans un fourré, sur une petite hauteur, dominant le lieu du rendez-vous. Le ciel était clair, il n'y avait pas de vent. Le large fleuve avait l'air d'un océan au repos. Tom écouta. Aucun bruit. Alors, il fit entendre un léger sifflement. Du pied de l'escarpement, un sifflement lui répondit. Tom siffla deux fois. On lui répondit de la même façon. Quelqu'un demanda à voix basse. Voilà ! Tom Sawyer, le vengeur noir de la mer des Antilles. Qui êtes-vous ? Huck Finn, les mains rouges. Et Joe Harper, la terreur des mers. C'est Tom qui avait trouvé ses surnoms dans ses livres favoris. Bien, donnez-moi le mot de passe. Ensemble, dans la nuit tombante, deux voix caverneuses répondirent. Sang ! Alors Tom lança son jambon du haut de la butte et se laissa glisser en s'écorchant et en endommageant quelque peu ses vêtements. Il y avait bien le long du rivage un chemin praticable, mais à quoi bon être pirate si c'est pour faire comme tout le monde ? La terreur des mers avait apporté à grand-peine une énorme pièce de lard fumé. Finn, les mains rouges, s'était approprié une poêle à frire, du tabac en feuilles et des épis de maïs destinés à faire des pipes. Des trois pirates, il était le seul à fumer ou à chiquer. Le vengeur noir de la mer des Antilles déclara qu'on ne pouvait se mettre en route sans avoir de quoi faire du feu. C'était une sage précaution. À cette époque, on ne savait guère ce que c'était que des allumettes. Ils aperçurent, à quelque distance sur un grand radeau, un brasier qui achevait de se consumer. Ils s'en approchèrent prudemment et s'emparèrent d'une grosse pièce de bois et de quelques tisons. Ce fut là l'occasion d'une expédition solennelle, menée dans les règles de l'art. De temps en temps, l'on faisait « chut » et s'arrêtait brusquement, un doigt levé sur ses lèvres. L'autre caressait de la main le manche d'un poignard imaginaire. Le chef chuchotait des ordres. Si l'ennemi bougeait, la consigne était de lui enfoncer dans le corps la lame jusqu'à la garde. Parce qu'il n'y a que les morts qui ne parlent pas. Tous savaient très bien que les hommes du radeau étaient au village en train de se désaltérer ou de tirer une bordée. Mais cela n'était pas une raison pour ne pas procéder de la manière classique de pirates qui savent leur métier. La bande s'installa sur le radeau, Tom commandait, Joe manœuvrait la rame avant. Les sourcils froncés, les bras croisés, Tom se tenait au milieu du navire et donnait ses ordres à voix basse. « Lofé, et droit dans le vent. Bien, capitaine. Souquez, ferme. Bien, capitaine. Laissez filer un point à bâbord. Bien, capitaine. » La tâche des enfants étant simplement de maintenir le radeau dans le chenal au milieu du fleuve. Il ne s'agissait bien entendu que d'ordres de fantaisie, ne répondant à aucune nécessité particulière. « Quelles voiles sont larguées ?»« Les basses, les huniers et le clinfoc, capitaine. Faites monter les voiles d'été. Envoyez 6 hommes en haut. Larguez le petit phoque et que ça saute. Bien, capitaine. Bâbord toutes, parez à mouiller. Bâbord, bâbord, attention les gars, comme ça. Bien, capitaine. Le radeau dérivait au-delà du milieu du fleuve. Les enfants le redressèrent et laissèrent filer les avirons. Les eaux étaient basses. Le courant n'était donc guère que de 2 ou 3 nœuds. Pendant les quelques 3 quarts d'heure qui suivirent, aucun propos ne fut échangé. Le radeau passa en vue du village que quelques lumières permettaient de repérer et qui dormait paisiblement sans se douter de l'importance des événements qui se déroulaient à peu de distance. Au-delà du vaste plan d'eau dans lequel se miraient les crabes, le vengeur noir, les bras croisés, jetait un dernier regard sur le théâtre de ses joies et de ses souffrances passées. Ah, si elle avait pu le voir, bravant la tempête, affrontant tous les périls d'un cœur intrépide, un sourire amer aux lèvres. Son imagination transportait Lee Jackson hors de la vue du village. C'était donc bien un dernier regard qu'il jetait, le cœur brisé mais satisfait. Les autres pirates, eux aussi, jetaient un dernier regard, qui dura si longtemps qu'ils faillirent dépasser le banc de sable de l'île. Ils s'en aperçurent à temps et manœuvrèrent pour éviter le danger de justesse. Vers 2 heures du matin, le radeau s'échouait sur le banc de sable près de la pointe de l'île. Les pirates débarquèrent avec leur chargement. Dans le radeau, ils avaient trouvé une vieille voile dont ils firent une tente-abri pour leurs provisions. Quant à eux, ils dormirent à la belle étoile. Des pirates pouvaient-ils faire autrement ? Leur premier souci fut de faire un feu près d'un gros tronc d'arbre à la lisière des sombres profondeurs de la forêt. Pour leur repas du soir, ils firent frire un morceau de lard dans la poêle et mangèrent la moitié de leur provision de pain de maïs. Dans leur joie de festoyer en toute liberté dans une forêt vierge, sur une île inhabitée, inexplorée, loin des demeures des hommes, ils déclarèrent renoncer à tout jamais à la vie civilisée. Les flammes du foyer leur éclairaient le visage et projetaient une lueur rougeâtre sur les troncs des arbres environnants et les feuillages des broussailles. Quand la dernière tranche de lard fut avalée, les dernières miettes de pain de maïs consommées, les enfants s'allongèrent sur l'herbe, épanouis de leur bonheur. Ils auraient pu trouver un endroit plus frais, mais pour rien au monde, ils n'auraient renoncé à leur feu de camp. « Épatant, hein ?» dit Joe. « Fameux !» dit Tom. « Qu'est-ce que diraient les autres s'ils nous voyaient ?»« Ce qu'ils diraient ? Mais ils mourraient d'envie d'être ici. Pas vrai, Huck ?»« Je comprends. Ce métier me va. Je ne demande rien de plus. Je ne mangeais pas tous les jours à ma faim, vous savez. Et puis ici, personne ne viendra nous embêter. »« C'est la belle vie, » dit Tom. « Pas besoin de se lever de bonne heure le matin. Pas d'école. Pas besoin de se laver, ni rien de tout ça. Tu vois, Joe, quand il est à terre, un pirate n'a rien à faire. Tandis qu'un ermite, il faut qu'il prie du matin au soir. Et ce n'est pas le rêve d'être comme ça tout seul, tout le temps. Ça, c'est vrai, déclara Joe. Je n'y avais pas pensé. Maintenant que je sais ce que c'est, je préfère être pirate. Tu comprends, dit Tom. Ça ne se porte plus beaucoup d'être ermite comme on faisait autrefois, tandis que les pirates jouissent toujours de la considération générale. Pour un ermite, il faut dormir à l'endroit le plus dur qu'il peut trouver, s'habiller de bure, se couvrir la tête de cendres, rester dehors quand il pleut, etc. Pourquoi faire s'habiller de bure et se couvrir la tête de cendres ? Demanda Huck. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est toujours comme ça qu'ils font. Faudrait que tu le fasses si tu étais ermite. Très peu pour moi, fit Huck. Eh bien, qu'est-ce que tu ferais ?
Je n'en sais rien. « Mais pas ça. »«
Il faudrait bien, mon vieux. Comment voudrais-tu y couper ?»«
Ça n'a rien à faire. Je ficherai le camp. »«
Fiche le camp ? En voilà un ermite. Tu ferais la honte de la corporation. »
Finn, les mains rouges, ne répondit pas. Il avait mieux à faire. Il venait de creuser un épi de maïs. Il y avait adapté un roseau et avait bourré de tabac cette pipe rudimentaire. Avec un tison, il l'alluma et se mit à tirer des bouffées de fumée odorante avec une satisfaction non dissimulée. Les autres pirates lui enviaient ce vice fastueux et résolurent de s'initier au plus tôt. Huck demanda. « Qu'est-ce qu'ils font, les pirates ?»«
Oh !» répondit Tom, « ils se la coulent douce.
Ils s'emparent des bateaux, ils les brûlent, ils emportent l'argent dans leur île et l'enfouissent dans des cachettes sous la garde des fantômes et des revenants. Et puis ils se débarrassent des équipages en tuant tout le monde à bord. On bande les yeux aux hommes et on les fait marcher sur une planche au-dessus de l'eau. Les femmes, déclara Joe, on les emmène dans l'île, on ne les tue pas.
Non, confirma Tom, on ne tue pas les femmes. Les pirates sont chevaleresques et les femmes sont toujours splendides, bien sûr. Et est-ce qu'il ne porte pas des vêtements magnifiques, chamarrés d'or et d'argent et garnis de diamants ? Demanda Joe, enthousiaste.
Qui ça ? Demanda Huck.
Eh bien, les pirates.
Huck jeta sur son accoutrement un regard piteux.
Alors, je ne suis pas à la page, dit-il avec une pointe d'émotion dans la voix.
Je regrette, mais je n'en ai pas d'autre.
Mais ses compagnons lui certifièrent qu'une fois les aventures commencées, les beaux habits viendraient vite. En attendant, ses haillons feraient l'affaire. Bien que certains pirates eussent pour habitude de ne se mettre en campagne qu'avec une garde-robe somptueuse. Peu à peu, la conversation ralentit. Les jeunes aventuriers avaient sommeil. La pipe tomba des mains de Huck. Il ne tarda pas à dormir du sommeil du juste. La terreur des mers et le vengeur noir de la mer des Antilles eurent plus de difficultés à s'endormir. Ils firent leurs prières en silence, tout en restant couchés. Personne en cet endroit n'étant là qui eût l'autorité voulue pour les obliger à s'agenouiller ni à réciter leurs prières à haute voix. En fait, ils avaient bien envie de ne pas les réciter du tout. Mais ils craignaient, en prenant cette liberté, de provoquer de la part du ciel un brusque coup de tonnerre à leur particulière intention. Tout à coup, l'envie de dormir se fit sentir. Ils allaient y succomber. Lorsqu'une intruse se présenta qui, elle, n'était pas d'humeur accommodante, leur conscience. N'avait-il pas eu tort de s'enfuir ? Et cette viande qu'il venait de manger, ne l'avait-il pas bel et bien volée ? Angoissante question. Ils essayèrent bien d'imposer silence à leurs remords en rappelant à leur conscience que bien des fois ils avaient pris des bonbons et des pommes. Mais la conscience n'admettait pas d'aussi pauvres excuses. Quant à eux, il leur parut, en fin de compte, qu'un fait était certain. C'est que prendre des bonbons, prendre des pommes, c'était seulement chiper, tandis que prendre des jambons, du lard, c'était carrément voler. Et cela, un commandement de Dieu le défendait. Eh bien, tant qu'il serait pirate, il ne volerait plus. Et la conscience en repos, ces pirates curieusement inconséquents avec eux-mêmes, s'endormirent paisiblement.